professeur?
Eh bien, ce sera le professeur Karl Wegscheider qui va maintenant donc faire son exposé. Le professeur Wegscheider est spécialiste de biométrie et de statistique. Il est consultant auprès de l'Institut national pour la santé et il va donner le titre suivant à son exposé, les défis méthodologiques dans la santé publique.
Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss noch mal ein völlig anderer Blick.
Eh bien, maintenant, jetons un coup d'œil tout à fait différent à nouveau sur la santé publique. Ici, nous avons eu, à mon avis, dont des exposés extrêmement intéressants avec différents contenus. Nous avons déjà vu des tableaux, des valeurs, des graphiques. Et maintenant, on peut se demander justement comment est-ce que l'on fait pour créer donc tous ces tableaux? Quels sont les défis méthodologiques donc pour la science de la santé? Vous connaissez bien donc ces graphiques. Ici, vous avez quasiment le mythe de fondation de l'épidémiologie classique. C'est de John Snow, donc une carte qui a été créée. Et là, il a montré tous les cas de choléra qui avaient été déclarés à l'époque. Et grâce à cette carte, il a réussi donc de définir la source donc d'apparition du choléra et on a pu à ce moment-là donc ensuite éliminer le choléra de ce quartier. Et là, on voit donc par exemple les distances ici, mais sinon il n'y a pas d'autres chiffres qui sont indiqués. Et beaucoup d'épidémiologistes me disent que beaucoup de jeunes gens ont choisi l'épidémiologie comme discipline et se sont dit « Ah, voilà, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais faire des cartes, je voudrais trouver les origines des maladies, éliminer les maladies. » Et bon, j'aime bien montrer ça aussi aux jeunes pour enthousiasmer les jeunes. Mais ça, cette carte n'a qu'un inconvénient, c'est que les épidémiologistes ne travaillent pas comme ça. Et au 19e siècle, par exemple, déjà, les épidémiologistes ne travaillaient pas de cette manière-là. En fait, la cartographie, bon, c'est quelque chose de limité, c'est suggestif, mais ce n'est pas suffisant pour voir les origines des maladies, les causes des maladies. Voilà, par exemple, maintenant, une autre illustration qui est apparue 21 ans plus tard. Là, on voit un autre problème. Il s'agit donc des guerres et des répercussions de la guerre. La carte de Minard, 1869, une carte historique qui montre la campagne de Napoléon en Russie et la catastrophe humanitaire qui en découle. Et ceci, pour les spécialistes, est considéré vraiment comme l'apogée de la représentation. Et c'est la raison pour laquelle je montre toujours cette carte. On voit la grande armée qui traverse la Russie et qui devient de plus en plus petite. Et au retour, il ne reste plus qu'une ombre de cette armée. Et quand c'est très suggestif, très parlant, et ça a eu un effet extraordinaire à l'époque. On voit vraiment ce qui se passe quand on se met à mener ce genre de campagne. Quand on regarde maintenant dans le détail, eh bien, on voit que cette carte, finalement, ne marche pas, ni sur le plan de la géographie, ni à d'autres égards. Les chiffres ne sont pas exacts, la géographie n'est pas exacte. En fait, l'auteur, manifestement, avait une autre intention. Il voulait, en effet, traiter 6 séries temporelles en même temps. Et il a fallu donc faire des compromis pour pouvoir le faire. Il a fallu limiter un petit peu la géographie. Et il y a des lacunes qui apparaissent. Et il a donc créé un petit peu, sur le plan imaginatif, une convergence pour pouvoir donc avoir quelque chose d'expressif. Donc, ça montre bien naturellement que l'on ne peut pas tout montrer sur ce type de graphique, avec, vu les contraintes qui sont engendrées. Mais bon, le 19e siècle en soi, ce n'est pas un problème. Au 19e siècle, on n'avait pas tant de chiffres. Disons, on utilisait des tableaux. On mettait ces chiffres dans des tableaux. Ah, mais à partir de là, on voit apparaître autre chose, à savoir la statistique médicale où on comble de plus en plus les lacunes. Là, il y a une autre appréhension, une autre perspective de la santé publique. Et là, je dirais qu'on a maintenant déjà une pseudo-précision, dirais-je. Car à partir de là, déjà, on connaît déjà les limites de ce travail. Le 19e siècle était porté par des évolutions physiques, industrielles, et on croyait beaucoup aux sciences naturelles, et c'est très déterministe. Et on a une interprétation très déterministe des chiffres. On vous dit, les chiffres disent la vérité. Alors, on ajoute ici, donc, à la carte, le chiffre. Mais on a, à ce moment-là, donc, des chiffres qui sont davantage disponibles. Entre-temps, on enseigne beaucoup les mathématiques, et donc, on a les chiffres disponibles. À l'heure actuelle, maintenant, on procède de manière tout à fait différente. Et ceci est dû à trois innovations qui sont apparues au XXe siècle. Première chose, le contrôle du hasard, c'est-à-dire le test statistique. Dans les années 30, ça a été précisé. Ce n'est pas qu'on n'ait pas eu la théorie de la relativité déjà, ou de la probabilité, pardon, auparavant. Mais là, on fait le test statistique, et ça ne s'est pas créé d'ailleurs dans le monde de la santé publique, mais plutôt à la périphérie, étant donné les expériences qui sont faites à l'échelon biologique. Et on voit qu'on ne peut pas ignorer le hasard. On a une variabilité donc qui apparaît. On élabore une théorie qui nous montre à partir de quand on peut s'appuyer sur les résultats de tests. Donc, c'est la question de la reproductibilité qui intervient ici. Donc, à cette époque, on remet en question les chiffres. Les gens se rendent bien compte que l'on ne peut pas accepter à 100% des résultats et qu'on ne peut pas les reproduire à 100%. Je pense à la citation de Mouzil qui a été citée aujourd'hui, c'est-à-dire, outre la réalité observée, il faut être prêt à admettre également d'autres vérités. Et là, il s'agit de voir ces autres réalités qui ne sont pas réalisées, qu'est-ce qu'elles ont comme effet donc sur les faits examinés. Et donc, la valeur, le test statistique, maintenant, c'est très important pour nous. Nous avons l'habitude de remettre en cause tous nos résultats pour savoir si ce ne sont pas des résultats dus au hasard. Et il y a donc maintenant, donc, une fiabilité accrue. Et donc, là, il y a certainement cette valeur P maintenant, donc, qui est très intéressante pour nous. Et on franchit là une étape très importante. On traite les chiffres de manière différente. C'est la raison pour laquelle maintenant, donc, dans les statistiques, nous traitons des données de manière différente. Bon, j'admets que on ne s'aperçoit pas toujours que l'on a véritablement remis en question les statistiques et que l'on a pris cela en compte. Mais il y a donc une modification qui intervient à partir du XXe siècle, et c'est la perspective statistique. La perspective statistique est beaucoup plus critique que la perspective chiffrée du XIXe siècle. Il y avait aussi un autre problème qui n'avait pas été traité de manière correcte au XIXe siècle, à savoir celui des facteurs confondants. On sait qu'il y a toujours des corrélations, des régressions que nous pouvons observer, et il peut y avoir des falsifications par des variantes, par des effets de sélection, etc. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait encore abordé de manière très naïve ce problème. On croyait aux corrélations, on les prenait pour des faits. Alors, la signification statistique ne nous aide pas toujours. Il se peut toujours qu'il y ait quelque chose qui interviennent. On a discuté, par exemple, des facteurs d'influence qui peuvent intervenir. Et on peut penser qu'il y a un rapport de cause à effet, alors que ce n'est pas le cas. Et on peut, à ce moment-là, donc, avoir des erreurs. Donc, le contrôle des facteurs confondants, c'est une mission très importante. Et ceci intervient seulement à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Et là, vous avez deux techniques qui peuvent être appliquées. Soit, dès le début, on évite, donc, les facteurs confondants en faisant faisant une expérimentation. C'est ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, pour vérifier l'efficacité de médicaments. C'est le paradigme de la gold standard pour la thérapie. Cependant, donc, on a des problèmes plus importants dans la santé publique parce que l'on ne peut pas toujours expérimenter de manière libre. Et c'est souvent le cas. On ne peut pas toujours reproduire non plus les expériences. Et donc, on peut pas, ce n'est pas valable pour un système de santé si on ne peut pas faire la chose une seconde fois. Donc, vous avez une évaluation donc, des données du passé. Et il faut à ce moment-là faire des études et il faut faire procéder à des ajustements, c'est-à-dire je dois me servir de modèles mathématiques. Et j'ai le facteur donc confondant et les autres dimensions qui m'intéressent. Je dois tenir compte de ces facteurs d'influence. Mais souvent, les modèles sont très compliqués, justement. Et alors, à partir de là, il se passe à nouveau un changement de paradigme. À partir de là, à partir du moment où j'accepte ces conceptions, la vérité, ce n'est pas ce que l'on observe, c'est relativisé de toute façon, c'est la vérité devient un modèle, une valeur calculée. Alors, je m'expose à ce moment-là à une technique mathématique. Et ça, c'est un pas à franchir qui est très important. Maintenant, ce pas est devenu inévitable à l'heure actuelle. Je vous montre ici, très brièvement, sans commenter tout cela, je vous montre de quelle manière le monde des modèles statistiques a changé sur 50 ans. Et on n'est pas du tout arrivé à l'issue. Mais au contraire, il y a une accélération qui intervient en raison des ordinateurs et du fait que les ordinateurs maintenant nous offrent de nouvelles possibilités de traitement des données. Ainsi, le regard que nous jetons sur la réalité et sur la science devient de plus en plus complexe. Et nous devons saluer justement ces nouvelles étapes, surtout pour la santé publique. En même temps, nous avons un problème qui est créé. Car dans ce cas-là, avec ces modèles mathématiques tellement complexes, tout le monde ne peut pas participer donc à la discussion. Et c'est très regrettable, car il s'agit en fait d'un monde de modèles qui a un langage universel. Ces modèles mathématiques utilisés sont les mêmes partout à travers le monde. Et ceci nous offre une opportunité incroyable de nous mettre d'accord sur des faits. Mais il faut pouvoir participer à la discussion. Et il faut voir que le monde dans lequel nous vivons restera divisé à cet égard. Si vous pensez à des hommes politiques que nous voyons tous les jours à la télévision, eh bien vous verrez que beaucoup d'entre eux ont encore donc cette notion chiffrée du 19e siècle. Ils ne connaissent pas la notion de la valeur P. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un facteur confondant. Et il propose donc les choses telles qu'elles sont. À cause justement de la valeur suggestive des graphiques, il croit les graphiques. Et là, je crois qu'il y a une tâche essentielle donc pour le monde scientifique de jeter la passerelle, donc une compréhension très poussée des données qui existent à l'heure actuelle et la compréhension qu'ont les gens qui n'ont pas encore subi donc ce processus de formation. Et donc pour ce qui concerne la présentation et la reproduction des données, il faut également donc avoir des décisions transparentes suite à ces modèles, car souvent, donc, ceci est important. Je trouve que c'est indispensable, car ces différentes perspectives, donc la donnée chiffrée, la donnée statistique, la donnée modélisée, ceci ne donne pas les mêmes résultats. Et donc, je ne vois pas encore exactement quelle sera donc l'influence à long terme, car c'est un phénomène relativement récent. Mais au fond, nous sommes tous un petit peu dépassés, surmenés par cette multiplicité de résultats que nous trouvons et qui sont engendrés sans cesse, et avec la diversité des méthodes également. Et cette explosion du savoir, donc, c'est quelque chose de très difficile. Il faut arriver d'une manière ou d'une autre à systématiser les conséquences. On ne peut plus absorber donc ces modèles statistiques si rapidement. Donc, il faut s'appuyer sur des registres, sur des méta-registres, sur des banques de données. Et là, vraiment, l'évolution d'Internet nous donne de nouvelles possibilités, des techniques qui sont d'une nature tout à fait différente de ce que nous avions auparavant. Des moteurs de recherche, la randomisation, etc. Et nous avons ici donc un nouveau regard que nous portons maintenant. Et nous avons, même sans en tenir compte, nous avons ce nouveau regard, ce méta-regard. Et donc, sans le remarquer, nous écartons des sources primaires et arrivons à des sources secondaires. Et donc, nous devons à ce moment-là aussi remettre, par exemple, en question également nos modèles. Alors, on pourrait se dire, voilà, maintenant, le problème de communication va être solutionné, ce que je voulais juste de vous présenter tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas justement la raison où, par exemple, la santé publique, l'hygiène publique, est-ce que c'est parce que là qu'il faudrait opérer, justement, c'est-à-dire les modèles agrégés, avec des données agrégées que l'on utilise? Or, ce n'est pas le cas. Je voudrais vous montrer d'un côté, donc, ce regard modélisé et le méta-regard de l'autre côté. Et voilà, dans le regard sur le modèle, c'est basé donc sur des données individuelles. Donc, vous avez une modélisation d'un patient avec donc les différentes valeurs combinées. Alors que de l'autre côté, vous avez des données agrégées. Ce sont des valeurs moyennes sur des régions, sur l'apparition de certaines maladies. C'est-à-dire le lien donc entre les différentes variables. Ensuite, dans le modèle, vous allez vous faire de la recherche sur les causes. On veut savoir pourquoi certains phénomènes se déroulent de telle ou telle manière. Mais on ne peut pas le faire de manière parfaite, car il reste toujours un résidu de facteurs confondants. Mais on essaie de se rapprocher. De l'autre côté, au contraire, on s'en tient aux résultats. Et on voudrait avoir une thérapie, finalement, qui sorte de là. Du côté modèle, c'est un regard analytique. Il s'agit de décomposer les différents phénomènes. De l'autre côté, c'est un regard synthétique. On veut arriver à supprimer les interférences et arriver donc à une vue uniforme. Du côté modèle, on s'oriente en fonction des différences entre les individus, entre les régions. Du côté méta-regard, on recherche au contraire les points communs. Donc, ces deux regards sont complémentaires mais complètement différents. Du côté modèle, on a autre chose. En fait, on s'intéresse aux différences, à la variabilité, à la répartition. De l'autre côté, il s'agit de la valeur moyenne, au contraire. Et il y a d'ailleurs donc tout un débat dans la méta-analyse. Les gens qui veulent utiliser la méta-analyse disent, voilà, nous avons inventé la méta-analyse pour trouver la réalité. Et on l'utilise en fait à des fins régulatrices et pour déboucher sur des mesures politiques, en fin de compte. Et voilà, là, nous avons un conflit au niveau des méthodes, mesdames et messieurs. Nous en avons discuté longuement hier. Donc, le conflit entre l'individu et la société. Et je pense que la santé publique ne doit pas se mettre automatiquement du côté de la santé publique et du côté de la société. Car il y a des patients qui demanderont, voilà ces jolies statistiques, est-ce qu'elles sont valables aussi pour moi? Donc, est-ce que la valeur moyenne va se réaliser sur moi? Quels sont les risques encourus pour moi? Et donc, ça, c'est au contraire, on voit l'individu qui veut se retrouver. Et si on se concentre dès le départ sur le principe de la société, on n'arrive pas donc à convaincre les individus. Donc, je me suis dit, voilà, donc, le regard sur le modèle, le regard modélisé, c'est la médecine, et de l'autre côté, donc, c'est la science. Mais je trouve que c'est un point de vue très dangereux. Moi, je veux plaider en faveur d'une autre approche, que vous appreniez, donc, à harmoniser ces différents mondes. Il y a des possibilités statistiques de le faire, d'avoir les effets individuels qui peuvent être représentés. Nous avons de meilleures possibilités pour le faire. Il est tout à fait possible de représenter les variables individuelles. Comment le faire? Eh bien, ce sont des mesures assez simples que l'on peut suivre, donc, pour harmoniser ces deux modèles. Souvent, lorsque nous avons des données individuelles, nous les regroupons dans des banques de données. Et d'ailleurs, il y a toujours des réticences à faire cela. Or, si on le fait et si l'on regarde donc ces données d'un côté avec le modèle, avec le regard modélisé et d'autre part avec le méta-regard, et il y a des projets qui sont faits, eh bien, on constate à ce moment-là de grandes différences. Dans la perspective méta-regard, parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas tellement s'y fier. Et Il y a, par exemple, des éléments qui sont laissés de côté qui pourraient être très dangereux, au contraire, pour l'individu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des études qui soient intégrées dans des séries. Et donc, nous avons besoin d'avoir une représentativité. En fait, donc... Nous devons plutôt incorporer les études dans des registres, je dirais. Et c'est là que nous pouvons réaliser l'harmonisation entre la modélisation et le méta-regard. Ce que nous avons vu, par exemple, dans les graphiques tout à l'heure, on verra que l'œil humain, finalement, est à plusieurs facettes. Et on arrive à saisir plusieurs aspects. Et cependant, la science ne fonctionne pas de cette manière-là. La science s'organise plutôt comme l'œil d'un insecte. Donc, il se dirige un petit peu dans tous les sens. Et là, nous avons, par exemple, différentes disciplines, différentes matières. Et chaque matière, chaque discipline a sa perspective à elle. Et il y a un décalage entre ces différentes facettes de l'œil, entre ces différentes perspectives. Et c'est seulement dans le cerveau de l'insecte qu'apparaît le tableau dans son ensemble. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est, vous savez que les insectes voient beaucoup plus vite que nous. Ils arrivent, c'est très important pour eux pour pouvoir s'enfuir suffisamment rapidement. Et on devrait retransférer cela à la science. On pourrait dire que les groupes de travail se comportent aussi de cette manière-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir où est le cerveau de la science. Qu'est-ce qui correspond donc au cerveau de la science? Et donc, on avait l'espérance de dire que c'était la méta-analyse, mais moi j'ai dit que c'était donc une fausse espérance, que la méta-analyse ne peut pas parvenir à faire cela. Mais peut-être que les spécialistes de la santé publique pourront donc se pencher sur ces problèmes et essayer de trouver une forme d'harmonisation. Et je voudrais vous montrer des exemples où cela me semble absolument indispensable. Par exemple, vous avez la question du génotype et du phénotype. On en discute beaucoup. C'est l'humanité discute de cela depuis très, très longtemps, de savoir ce qui est acquis, ce qui est inné. Et donc, avec les progrès du génie génétique, eh bien, on a de nouvelles discussions là-dessus. Et donc, j'ai l'impression que pour ce qui concerne l'Allemagne, eh bien, le génotype est déterminé, par exemple, en laboratoire. Et les gens qui travaillent en laboratoire ne veulent pas sortir de leur laboratoire. Ils n'ont pas du tout envie d'aller faire de la d'aller dans la pratique. Et dans la pratique clinique, c'est l'inverse. Le chemin pour aller en laboratoire est très long aussi. Donc, lorsqu'on pense les choses de manière complexe, on voit que là, vous avez donc un ensemble de facteurs de risque ici. Donc, il serait souhaitable d'établir le lien entre ces deux domaines. Et il me semble que dans la santé publique, justement, eh bien, les spécialistes sont les seuls à vraiment repérer justement cette difficulté et à pouvoir le faire. Ou par exemple, les événements aigus qui relèvent de la médecine des spécialistes de l'urgence, par exemple, et alors que des maladies chroniques sont confiées à d'autres médecins, aux médecins de famille. Là encore, donc, on a une division au niveau du diagnostic. Les déroulements chroniques, donc, sont découpés en différentes phases avec des spécialistes différents pour les phases, etc. Il serait très important de regrouper ces disciplines. Nous l'avons déjà dit dans un autre contexte. Vous pouvez avoir un patient multimorbide avec toute, donc, son histoire. Et donc, c'est très important d'établir les liens ici et de pouvoir représenter l'ensemble de ces maladies dans un même modèle. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, chaque discipline fait sa propre recherche. Et puis, prenons un cas d'actualité. En Amérique, on en discute beaucoup à l'heure actuelle. Nous avons là aussi un écart encore à l'heure actuelle en ce qui concerne donc l'autorisation des médicaments. pour l'évaluation de la thérapie, l'efficacité de la thérapie, la sécurité de la thérapie. Normalement, ça devrait donc faire partie d'un même ensemble. Et dans la pratique, au contraire, on a d'un côté les RCT pour l'efficacité de la thérapie et la sécurité de la thérapie intervient plus tard. Et donc, les scandales qui sont intervenus dans les dernières années nous montrent bien que ce domaine n'est pas encore donc élaboré de la manière adéquate. Il y a un médicament qui est évalué. Je vous montre donc toutes les différences ici. Donc, on a donc l'examen de l'efficacité donc qui se fait jusqu'à l'introduction sur le marché. Jusque-là, on n'a pas suffisamment de données. Donc, on a le médicament qui arrive sur le marché et l'examen de la sécurité se fait après donc l'introduction sur le marché. Et donc, on n'a pas, on a donc la collection de données active qui se fait dans la prospective, tandis que la collection de données passives se fait par rétrospective. Il y a d'un côté la recherche systématique des effets, alors que de l'autre côté, on a une découverte aléatoire, par hasard, des effets secondaires lors de du test de sécurité. Pensez à certains exemples où on aurait déjà eu certaines indications au niveau du contrôle d'efficacité, mais bon, ça n'a pas été poursuivi de manière suffisamment systématique. Et ça, c'est un problème pour les produits pharmaceutiques parce que vous avez un blockbuster, par exemple, qui sera retiré du marché d'un seul coup, alors qu'il y aurait des groupes, par exemple, qui pourraient en profiter. Et c'est vraiment un problème pour l'industrie pharmaceutique. En d'autres termes, il faut vraiment avoir une nouvelle réglementation dans ce domaine. Et là, l'Institut de la médecine aux USA donc donne de nouvelles recommandations. L'Institut de la médecine a été créé spécialement à cet effet aux USA pour se pencher sur ces problèmes. Et on voit d'abord que c'est un problème financier très important parce que l'efficacité, donc le contrôle d'efficacité est financé en interne, tandis que le test de sécurité se font donc de manière non réglée, même avec la FDA. Donc, on consacre tout l'argent pour l'efficacité et non pas pour la sécurité. Et si l'on regarde ce qui se passe en Europe, eh bien, je vois qu'on n'a pas encore un débat tellement virulent ici, mais on voit qu'il faudrait donc avoir une répartition des fonds entre le secteur efficacité et le secteur sécurité. Il faudrait avoir donc des études post-marketing, tirer des conséquences des résultats obtenus, faire également donc avoir un enregistrement ex ante de toutes les études et ce qui d'autres choses intéressantes, par exemple la communication sur les risques. Il faut améliorer la communication entre les médecins et les patients lorsqu'on sait que, par exemple, un examen n'est pas encore arrivé à son terme et on voudrait mettre de nouveaux médicaments sur le marché avec un triangle noir. Et ils disent aussi qu'il faut avoir une interdiction de la publicité directe pour les consommateurs pendant 2 ans pour que ces produits ne soit pas lancé sur le marché de manière trop agressive. À l'heure actuelle, il y a des discussions aux États-Unis pour savoir si l'on peut véritablement appliquer ce programme de cette manière. Nous allons voir, et ça c'est mon dernier point, il y a autre chose qui est remarquable. Jusqu'à présent, toutes les parties impliquées ont participé donc à ce processus, se sont occupées toujours, justement, je disais, de l'efficacité, mais pas de la sécurité. Il n'y a pas de force de la société qui se préoccupe de la sécurité. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que dans beaucoup de domaines, chez nous, il y a toujours un côté qui reste complètement dans l'ombre, à savoir l'expérience clinique, les déroulements chroniques, la sécurité de la thérapie. Et de l'autre côté, tout est éclairé, c'est là que va l'argent, il n'y a pas de réticence. Alors on pourrait dire, ben voilà, c'est évident, c'est l'industrie pharmaceutique, etc. Mais en fait, il faut voir que c'est notre erreur collective ici. Je ne peux pas vous donner des études scientifiques là-dessus, mais je peux vous dire sur mon expérience personnelle que j'ai là une supposition. J'ai eu un jour une discussion qui m'a fait presque peur. C'était un organe chargé d'accorder des prix à des lauréats, des prix très élevés. Et il y avait donc deux travaux qui avaient été retenus, une procédure hautement technologique et qui avait été essayée sur 16 patients. Et sur la base donc de ces résultats encourageants, on disait voilà, c'est la nouvelle technologie qui va remplacer la radiologie à l'avenir et donc on pourra utiliser cela, etc. Aucune influence sur la thérapie. On n'a pas vu si c'était véritablement donc efficace. D'un autre côté, il y avait une étude sur une procédure qui avait été lancée il y a 10 ans, et c'était vraiment une étude sur le terrain. Et après de longues études sur des milliers de patients, on s'est aperçu finalement qu'on avait un résultat négatif, mais qui a donc évité des coûts et des dépenses inutiles. Et en même temps, ça apporte une utilité aux patients. Et entre ces deux études, entre ces deux solutions, évidemment, on devait choisir à qui accorder le prix. Et les deux tiers du jury ont choisi donc cette première technique. Pourquoi? Eh bien, je comprends, j'ai une certaine compréhension. Naturellement, tout le monde souhaite avoir une innovation qui améliore notre sort, etc. Nous avons tous des attentes. Nous espérons réaliser des gains, pas seulement l'industrie pharmaceutique. L'innovation, moi, je le vois toujours. En tant qu'expert, l'innovation, c'est quelque chose dont on a besoin naturellement dans la science. L'innovation, c'est quelque chose que la population demande. L'innovation, c'est ce que veulent les députés. C'est vraiment donc une attitude de base ici. Et il faut voir que là, il y a quand même des limites. Et puis, l'espérance, tout le monde espère avoir un résultat. Moi, en tant que statisticien, par exemple, je me suis consacrée pendant très longtemps aux variations des cours de la bourse. Et tout le monde aussi espère pouvoir gagner de l'argent donc, grâce aux cours de la bourse. Et donc, je crois qu'il y a une tâche, une mission de la société ici. Voilà les trois choses que je voudrais indiquer ici. On devrait avoir donc une observation simultanée des effets individuels et des effets dans la société. Essayer d'intégrer différentes facettes scientifiques et prendre les différentes sciences et les encourager à participer au concert des sciences. Et nous devons faire quelque chose pour avoir une correction des erreurs de la science, des écarts dans la science. Je vous remercie de votre attention.